7h31, on est le 2 février 2026. Qu'est-ce qui se passe sur la route, mon ami?
On est, je dirais, dans l'heure de pointe habituelle. Secteur des ponts pour un lundi. On est pas mal dans la normale, là, un petit peu d'attente, mais pas catastrophique non plus. Sur Capitale-Ouest, ralentissement qui est présent par bout entre Beau-Royal et Laurentienne. Capitale-Est vers le boulevard Pierre-Bertrand, du rouge sur la carte aussi. Laurentienne-Sud entre boulevard Jean-Talon-Ouest et un peu passé Capitale, il y a des problèmes également. En 4-Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest au rouge, et un petit peu plus haut. Quand tu roules vers Shannon, là aussi, quelques difficultés.
Merci beaucoup. 7h55, le pit stop avec Denis Gravel. On va parler de sujets qui touchent l'actualité. On va débattre aussi, donc c'est à ne pas manquer. On a changé l'heure du pit stop. On a mis ça 10 minutes plus tard pour donner une chance à tout le monde dans le trafic. Vous n'avez pas la chance de rentrer à 8h30 ou 9h à job, vous pouvez télécharger l'application blvd.fm et vous pouvez nous amener un peu partout, que ce soit au bureau ou encore en voyage, ou encore directement nous écouter sur la web radio de Boulevard, donc blvd.fm. Vous allez avoir tout cela. On met les podcasts, on met les entrevues. Parlant d'entrevues, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, est en studio. Très content de l'accueillir. Salut, Éric.
Salut, Yannick.
Très content de vous voir, monsieur. Vous étiez en congrès en fin de semaine. Oui. Comment ça a été, votre congrès?
Bien, ça a très bien été. Les militants étaient gonflés à bloc. C'était notre dernier congrès avant l'élection générale qui aura lieu le 5 octobre prochain. C'était un congrès pour peaufiner notre programme, là, adopter les dernières résolutions. Il y en a près de 60 qui ont été adoptées en fin de semaine pour faire notre plateforme électorale. Donc, ça a été un bel exercice. On a reçu aussi l'ancienne ministre de la CAQ, Maïté Blanchette-Vézina, qui est venue nous faire un discours sur les régions.
Le flirt, là, va falloir que ça arrête, Éric, là.
Écoute, toi, Yannick, t'es trop vite en
affaire. J'étais un gars de premier soir.
Mais oui, mais les gars qui closent le premier soir, ça dure jamais toute une vie non plus.
Quoi? mais c'est ça, le flirt, va falloir que ça arrête. Mais je comprends quand même son point en disant ben, « Mes électeurs m'ont élu sur la bannière Coalition Avenir Québec. »
Honnêtement, Yannick, là, je voulais voir comment les militants allaient réagir en fin de semaine, parce que tu sais que nous autres, en tant que conservateurs, là, on est ceux qui détestent le plus la CAQ. Là. Quand tu regardes là, qui était le plus insatisfait de la CAQ, puis qui est le plus négatif par rapport à la CAQ, c'est souvent les conservateurs. Fait que, tu sais, amener une ancienne ministre de la CAQ dans un congrès conservateur, ouais, ça aurait pu faire des flamèches. Finalement, ça a été un coup de cœur pour à peu près tout le monde qui était dans la salle. Donc, la chimie a bien passé. Et là, on va commencer à collaborer ensemble concrètement à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Elle va déposer un projet de loi sur l'immigration en région avec moi. On va faire des conférences de presse ensemble. On va commencer à faire des tournées même de région ensemble. Donc, tranquillement, la relation évolue et avance.
Là, Pierre Poilievre, il y a des gens qui se posaient des questions sur son leadership. On lui a donné un 87%. Toi, tu n'avais pas cet exercice-là à faire en fin de semaine.
Je l'avais fait en 2023. Tu le fais tout de suite après l'élection. C'est pour ça que Pierre Poilievre le faisait, parce que l'élection vient d'avoir lieu. C'est le premier congrès qui suit une élection. Donc, c'est pour ça que Poilievre le fait maintenant. 87,4%, je pense pas qu'on va pouvoir dire que le mouvement conservateur est divisé.
Nous autres, on aime un peu Éric Duhem. J'ai regardé samedi matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Il y a une personne sur deux au Québec qui a une mauvaise opinion à ton égard. Pourquoi, selon toi?
C'est vrai que c'est difficile à comprendre, parce que c'est pas comme si j'avais géré depuis 10 ans puis que j'étais hyper impopulaire comme François Legault. Là.
T'as pris aucune décision qui a touché personne.
Puis, tu sais, moi, tout ce que je fais, c'est que j'émets des idées, puis mes idées sont tellement bonnes que toutes les autres parties viennent nous les voler. Donc, c'est difficile à comprendre. J'imagine que c'est aussi le traitement qu'on a. T'sais, souvent, quand on parle de nous, c'est toujours pour essayer de nous ridiculiser. Donc, il y a des gens qui sont plus sensibles à ça.
Mais est-ce que quand vous prenez la parole des dernières années, quand je dis vous, là, je parle du Parti conservateur, ouais, du Québec, est-ce que quand vous prenez la parole, puis là, on vous voit sur les réseaux sociaux, puis on vous voit à la télé, c'est toujours pour les bonnes raisons. Les sujets que vous choisissez, c'est-tu toujours les bons sujets qui touchent les gens?
C'est un bon point que tu soulèves là. C'est sûr qu'on est un parti qui n'a pas beaucoup de visibilité. On est un parti qui n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup plus difficile pour nous autres d'imposer un agenda puis de choisir les sujets. Moi, je ne peux pas me lever puis me parler à la Chambre puis poser des questions sur un sujet précis au gouvernement puis les faire trébucher un ministre ou le premier ministre puis faire des nouvelles avec ça pendant 3 jours. Puis souvent, c'est dans les périodes de questions, quand je fais des conférences de presse, que ça fait les nouvelles. Donc, c'est sur des sujets un peu plus controversés, parce qu'on a des positions qui sont différentes des autres. Et ça va prendre une discipline. C'est sûr que plus on approche de l'élection, plus il va falloir focaliser là, sur nos thèmes, nos grands thèmes. Là. Nous autres, c'est quoi? C'est de mettre plus d'argent dans les poches du monde pour faire face au coût de la vie, additionner le privé en santé pour offrir des meilleurs soins, s'assurer que tout le monde ait un logement décent à un prix raisonnable, puis qu'on puisse, les jeunes puissent fonder des familles, puis s'acheter des maisons, et puis exploiter nos ressources, s'assurer d'enrichir le Québec. Essentiellement, c'est ça le Parti conservateur. Et c'est de ça dont je dois devoir parler, puis être un peu plus discipliné, puis essayer de moins répondre aux questions là, au sideshow.
OK. Donc ça, c'est la stratégie pour la prochaine année.
Ben oui, c'est de rester discipliné. Parfait. Puis de trouver des bons porte-parole aussi. Il faut additionner. Là. Éric Duhem, c'est une personne, c'est le chef, oui, mais je suis pas tout seul. Là. C'est le Parti conservateur, c'est une équipe.
Ouais.
C'est pour ça qu'en fin de semaine, si on a mis Maïté Blanchette-Vizina en avant, on a mis Karim, le docteur Karim Elayoubi,
qui est un bon porte-parole aussi.
Les petits en santé, c'est le gros budget en termes de dépenses. Là. C'est là que tu as besoin, quant à moi, d'un porte-parole.
Adrien Pouliot, étais-tu là en fin de semaine?
Adrien, il était là virtuellement. Il est encore au show à ce moment-ci de l'année, ben, le chanceux. Mais oui, il était là virtuellement. Le sénateur Boisvenu aussi est venu présenter des propositions sur la loi et l'ordre.
Mais Adrien Pouliot, sénateur Boisvenu, ils vont-tu mettre leur face sur une pancarte?
Il va falloir leur demander, mais je peux t'assurer qu'on va avoir un bon porte-parole en matière d'économie. Ça aussi, ça va être les... Tu sais, t'as besoin de quoi, là? T'as besoin d'un bon porte-parole en santé, en économie, famille, tu sais, ressources naturelles, justice. Tu sais, 4-5 porte-parole. Tu sais, là, Jonathan Poulin, je vais vous donner un exemple. Là. Notre candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, jeune avocat, c'est sûr qu'il était moins connu en 2022. Il a pris de la maturité, il a pris de l'expérience. 4 ans plus tard, c'est un comté où normalement, là, à moins d'un désastre, là, le Parti conservateur va être élu, puis Jonathan Poulin va être député de Beauce-Sud le 5 octobre. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel d'avenir. C'est important aussi de former une relève conservatrice, des porte-paroles conservateurs. Fait que oui, on va en avoir qui sont plus connus, mais on va aussi en avoir qui sont des vrais conservateurs qu'on a montés dans notre propre filière.
Oui, justement, hier au Congrès, vous avez annoncé 10 candidatures, 10 personnes qui reviennent après une défaite électorale. Comment vous allez tenter d'équilibrer votre équipe? Parce que je me dis toujours... Si on reprend juste du monde qui ont perdu, peut-être qu'on n'aura pas un aussi bon résultat.
Mais d'abord, c'est des gens qui ont... Moi, je vois pas ça comme une défaite. Je vois ça comme du monde qui ont pris de l'expérience parce qu'ils sont passés de 0 à 20-30 % dans le comté. T'sais, c'est quand même phénoménal ce qu'ils ont fait. Ils ont eu 4 ans souvent. Puis ceux qu'on nomme présentement, là, c'est des gens qui ont passé 4 ans à continuer à se battre, à continuer à se faire connaître, à continuer à vendre des cartes de membres, à développer leur réseau dans leur comté. Fait que moi, je voulais les encourager. Moi, j'ai un préjugé favorable pour ceux et celles qui étaient là quand on était à zéro, puis qu'aujourd'hui, quand on est dans des comtés qui sont proches de gagner...
Qu'on crut au parti quand le parti commençait.
Tu sais, il faut que tu sois loyal puis fidèle à ton monde si tu veux que ton monde soit fidèle. Fait que moi, j'ai été fidèle à ces gens-là, puis je voulais les nommer tôt pour qu'ils aient plus de temps pour continuer à se faire connaître. Puis on va en annoncer beaucoup, je veux... c'était un reproche qu'on nous avait fait en 2022, puis c'était pas nécessairement tout de notre faute. Là. J'étais arrivé quasiment un an avant les élections. Là. Tout a été très, très, très vite. Puis les candidats, ils ont nommé beaucoup à la dernière minute. Là, on veut leur donner plusieurs mois.
Pour qu'ils gagnent en notoriété dans leur comté?
Pour faire campagne, pour organiser aussi, monter leur organisation, leur exécutif. T'sais. Ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, là, on est le premier parti qui a commencé à annoncer ces candidats. On est celui qui en a le plus d'annoncés, puis on va continuer à en annoncer dans les prochains jours.
Les grosses thématiques là, du Congrès, c'était quoi? Puis vous allez mettre quoi en place dans la prochaine année?
Bien, le premier thème, là, puis je pense que c'est celui qui préoccupe tout le monde, là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Québécois à faire face à la hausse des prix? Tout le monde au Québec est pris à gorge ou à peu près. Il y a de plus en plus de gens qui s'appauvrissent et on le sent, l'inflation, là, tous les jours, pas juste à l'épicerie, là, dans tout. Là, quand vous renouvelez votre hypothèque, quand vous allez magasiner pour n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est très important. Le deuxième thème, c'est évidemment la santé, l'accès aux soins de santé. On a un ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vient de démissionner. C'était un bon gestionnaire, M. Dubé. Là. Le problème, c'était pas M. Dubé. Le problème, c'est le monopole public. Et je pense qu'on est le seul parti aussi qui a le courage de prendre le taureau par les cornes à cet égard-là. Je t'ai parlé tantôt du logement.
Mais les hauts fonctionnaires, tu fais comment? Pardonne-moi l'expression. Tu fais comment pour les sacrer dehors? Tu sais, les gars qui faisaient pas la job à la sac, on leur dit, ils font pas la job, on les a tout simplement mis dans un autre poste avec une augmentation de salaire.
C'est débile.
Comment ça peut arriver dans notre société?
Il va falloir un moment donné qu'on soit capable de dire à du monde, vous faites vos boîtes puis vous sortez. Je sais, on n'aura pas le choix comme société. Il va falloir en congédier. Nous autres, on va en congédier 20 000 d'une shot.
Mais va-tu falloir changer la loi, Éric? Parce que visiblement, ça fonctionne pas. Le gars voulait en mettre dehors puis ils ont toujours pas mis d'erreur.
Oui, mais je pense pas que c'était une question de loi. Je pense que c'était d'abord et avant tout une question de volonté politique. C'est parce qu'il y a un prix politique à faire ça. Parce que tu te ramasses avec des manifestations syndicales devant la porte. Tu te ramasses avec des médias qui hurlent contre toi. Moi, la seule raison pourquoi je pense qu'en tant que conservateur, on peut le faire puis que la CAQ l'a pas fait, c'est parce qu'on va avoir la légitimité démocratique de le faire, parce que c'est exactement ce qu'on dit avant l'élection, puis c'est exactement ce qu'on va faire au lendemain de l'élection. Puis c'est ça un peu le problème de la CAQ, c'est qu'ils ont viré à gauche, à droite, à gauche, à droite. On ne sait plus si ils sont fédéralistes, souverainistes ou à gauche ou à droite. C'est un parti qui a joué avec le vent. Et à un moment donné, à force de gouverner par sondage, bien, tu deviens totalement incohérent. Puis c'est ce qui est arrivé malheureusement ces dernières années.
En santé, comment vous allez affronter les lobbies? T'sais, moi, je suis pour ça. Là. Je rêve du moment où il va y avoir un hôpital public. Puis l'autre côté de la rue, un hôpital privé. Puis quand tu respectes pas les délais au public, on te dit avec ta RAMQ, va-t'en au privé et va te faire opérer.
C'est notre programme.
C'est mon rêve. Mais comment tu vas réussir à convaincre les lobbies? Parce qu'on l'a vu, oui. Christian Dubeuf frapper un méchant mur avec les fédérations
pas
des médecins.
Voulait faire en passant. Là.
Non, non, je sais, mais quand même, les lobbies se préparent à ça. Là.
Les lobbies sont très puissants. Puis moi, je pense pas que c'est le politique qui va affronter les lobbies, c'est le marché. C'est pour ça que à partir du moment où tu mets de la concurrence, bien, ils peuvent plus taper sur un monopole. Là. Ils n'ont plus le monopole de rien. Fait que c'est plus le gouvernement qui est leur adversaire. C'est le gars qui va ouvrir une clinique ou un hôpital privé, puis qui va les concurrencer, puis qui va être capable de prouver qu'il est capable de faire plus de soins pour moins cher, puis que les clients, les patients vont être plus satisfaits. Et comme dans n'importe quel business, je veux dire, vous autres, là, c'est pas les lobbies qui décident qu'est-ce que vous dites en ondes, qu'est-ce que vous
ben
dites
non.
pas. C'est la concurrence. C'est le fait que vos codes d'écoute montent ou descendent, puis vos annonceurs viennent ou viennent pas.
On monte!
Ben, il faut que ça soit exactement la même chose avec la santé. Il faut instaurer de la concurrence. On n'invente rien. Là. C'est comme ça dans toute dans vie. Là. La concurrence est la clé de s'améliorer et d'offrir des meilleurs services.
En fin de semaine, tu t'es attaqué à l'enfant chéri des Québécois, si on en croit les sondages.
Vous ne trouvez pas que c'est un peu arrogant? Vous ne trouvez pas que ça manque d'humilité? Monsieur Plamondon, là, c'est le gars qui est en train d'organiser le défilé de la Coupe Stanley sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, puis il n'y a même pas le club pour faire les séries. Monsieur Plamondon, votre obsession référendaire est en train de vous aveugler. Vous êtes déconnecté des Québécois. Il faut arrêter d'être prétentieux puis de tenir les électeurs pour acquis en se déclarant vainqueur avant même que la course ait commencé.
Les gens veulent rien savoir de référendum, mais ils veulent mettre PSPP en place. Toi, t'as défini ton ennemi pour la prochaine campagne?
Bien, c'est assez clair. Là. Je pense que c'est lui qui mène dans les sondages depuis 3 ans. Il est à 32 %.
Il descend.
L'option de la... Écoutez, là, en fin de semaine, là, on a parlé beaucoup des sondages. Il faudrait parler de la souveraineté. 68 % des Québécois voteraient non s'il y avait un référendum aujourd'hui. C'est pas rien, là. Ça serait la pire défaite du mouvement souverainiste de l'histoire du Québec. Et ça, c'est pour le pouvoir québécois, c'est la pire chose qui peut arriver. Paul Saint-Pierre Plamondon, il nous amène dans le mur à vitesse grand V. Puis pourquoi il est en train de faire ça? Puis pourquoi il s'obstine, même si personne n'en veut? Parce qu'au Québec, à 32 %, c'est un désastre au niveau référendaire. Mais parce qu'il y a 5 partis politiques, à 32 %, tu peux être majoritaire. Et c'est ça, il est en train d'utiliser ça puis de chauffer sa base pour être majoritaire, mais il réalise pas qu'en faisant ça, il est en train d'affaiblir le pouvoir québécois. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète. Écoute, je fais des tournées partout puis je suis toujours à Chicoutimi de ce temps-là à cause d'élections partielles qui s'en vient. Il y a personne. Jeudi, j'ai fait 3 usines. Il y a pas un travailleur qui m'a parlé de souveraineté. Ils m'ont tous parlé du prix du gaz, du prix du panier d'épicerie, du renouvellement de l'hypothèque, du fait que le jeune n'était pas à s'acheter une maison, du fait que leur mère a l'attend pour rentrer à l'hôpital. C'est de tout ça dont le monde me parle. Il y a personne au Québec qui a de l'appétit pour un référendum. Puis on a un parti qu'on va potentiellement élire, que c'est son obsession. À un moment donné, il faut qu'on s'ouvre les deux yeux puis ça presse, là.
J'ai une très grande crainte, moi, pour l'accès à la propriété. Oui. J'ai des enfants de 18 et 16, puis je me disais, hey,
mais toi, t'es loadé, tu vas te faire des aider.
Pas vraiment. J'ai viens de m'acheter une maison l'an passé, donc tu comprendras que je les aiderai pas beaucoup. Qu'est-ce que les conservateurs proposent, justement, pour que l'accès à la propriété s'améliore?
Bien, d'abord, ta préoccupation est tout à fait légitime. Écoute, depuis que la CAQ est arrivée, là, en 7 ans, le prix moyen d'une maison au Québec a monté de 74 %. C'est presque le double. En 7 ans, pas en 20 ans, là.
Et moi, je l'ai vu, j'ai vendu il y a 7 ans, je rachetais l'année passée.
Tu as trouvé que ça coûtait un petit peu plus cher. Donc, ça, c'est une préoccupation qui est légitime. Comment on fait pour diminuer les prix? Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, il faut augmenter l'offre, c'est-à-dire construire. Puis, il faut, tu sais, si tes enfants, là, ils veulent fonder une famille, tu sais, les jeunes, là, c'est tout pareil. Tu sais, tu tombes en amour, tu veux t'acheter une maison, puis tu vas avoir des enfants. C'est le cycle normal de la vie. On est en train de le briser. On est en train d'empêcher une génération d'avoir accès à la propriété. Puis, notre façon de penser le développement immobilier au Québec est anti-famille puis est contre les jeunes. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut présentement, de regarder tous les projets, que ce soit le REM à Montréal ou même le tramway ici, ce n'est pas des projets de transport, c'est des projets de développement immobilier avec des tours, avec des condos locatifs à 2000$ pour un 3,5. Mais tu n'élèves pas une famille là-dedans, puis tu t'enrichis pas, puis tu ne mets pas du cash down, tu achètes une maison. Quand tu vas avoir des enfants, là, tu veux un terrain, tu veux une cour, puis tu veux un parking. Là. C'est grosso modo, ça te prend ça, là, c'est la base. Là. Et notre façon de penser le développement urbain ne fonctionne pas avec la famille et les jeunes. Fait que c'est une révolution d'une certaine façon au niveau urbanistique là, qu'il faut faire. Il faut commencer à dire, oui, on peut en construire des bungalows, puis oui, les familles vont pouvoir en acheter à des prix abordables. Puis il y a des réglementations aussi qui font que les maisons coûtent toujours plus cher parce qu'on met toutes sortes de règlements qui ne coûtent rien pour les fonctionnaires et pour l'État, mais quand arrive le temps de construire, ça coûte beaucoup plus cher parce que tu as des règles à suivre. Donc, c'est comme ça, nous autres, qu'on pense qu'il faut le faire. La deuxième chose, c'est les taxes de bienvenue. Vous avez peut-être vu, là, on a adopté une résolution en fin de semaine, ces taxes de bienvenue. Parce que le prix moyen des maisons explose, les taxes de bienvenue, les revenus des villes au niveau des taxes de bienvenue ont explosé. Et ça, ça fait quoi? Mais c'est surtout les gens, quand t'es jeune, là, une taxe de bienvenue, là, c'est beaucoup d'argent, là, parce que tu peux pas le mettre sur ton hypothèque, ça, là, faut que tu le sortes de tes poches, là. Donc, l'accès à la propriété devient encore plus difficile parce que t'as pas le cash down pour t'acheter une maison. Donc, on veut au moins que les taxes de bienvenue soient limitées, d'abord qu'ils soient réduites de façon considérable, puis que les hausses prochaines soient limitées au coût de la vie, pas qu'ils explosent de 74% d'une shot, là.
Éric Duhaime, à midi, tantôt dans l'émission On en jase, on reçoit Bernard Drainville. On va y poser les questions que tu lui as posées en fin de semaine au Congrès.
As-tu vraiment fait un virage idéologique à 180 de la gauche vers la droite au cours des 24 dernières heures?
Bernard Drainville a travaillé avec toi pendant des années.
C'est un fait.
Ils l'ont embauché parce que... ils vous ont embauché parce que toi, t'étais à droite.
Oui, c'était le choc des idées de la gauche contre la droite.
Oui.
C'était pas moi le gars de gauche.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non!
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y a eu une épiphanie dans les 24 dernières heures. Puis qu'est-ce qu'il a fait depuis 4 ans aussi qui était à CAQ? Comment c'est que ces idées-là de droite, ils avaient pas?
Il était journaliste à gauche. Il était pour le Parti québécois. Il était à gauche. Il était travaillé à radio. Il était à gauche. Il était pour la Coalition Avenir Québec. Il était à gauche. Là, il veut devenir chef. Il regarde ce qu'il y a devant lui. Puis il se dit, ma seule porte de sortie, c'est d'aller à droite. Mais... fait que c'est un gars qui a plus besoin de la politique que de la politique a besoin de lui.
Absolument. Puis ça, tu sais, moi, je l'aime beaucoup, Bernard. Là, c'est un gars qui est travaillant, c'est un gars qui est intelligent, mais malheureusement, au niveau des idées, il est en train de l'échapper, puis je pense que il est en train... tu sais, ça, c'est pas crédible. Puis si les gens veulent des politiques de droite, ils vont voter pour ceux et celles qui y croient depuis le début, pas ceux qui clignotent à droite puis qui ont viré à gauche toute leur vie. À un moment donné, ça marche pas, cette affaire-là. Là.
Surtout que la CAQ, en 2017, a fait une campagne électorale de droite économique pour, par la suite, prendre le pouvoir
fait le contraire.
Puis gouverner à gauche.
C'est fait qu'à un moment donné, là, faut, si vous voulez voter, si vous voulez des politiques de droite, votez pour la droite. Puis, mais en même temps, je suis content que Bernard Drainville fasse ça. Même Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait vendredi en Beauce. Ça prouve une chose, ça prouve qu'on a des bonnes idées. Ils ne pourront pas dire dans la prochaine élection qu'on est des fous furieux. Quand tu voles les idées de quelqu'un, c'est parce que tu trouves que ce qu'il dit, ça a bien du sens.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, je te souhaite de passer une belle journée et une belle
Merci
semaine.
Merci beaucoup, gang.
Merci beaucoup. Bye-bye. Sur la route, Max.
On est dans l'heure de pointe. Capitale direction ouest, des problèmes vers Laurentienne, comme d'habitude. Là, je dirais que ça part à peu près à hauteur de Beau-Royal. Capitale est, semble y avoir un bon problème. Est-ce qu'il se passe quelque chose, panne ou accident. J'ai pas l'information, le 88-971-1021. Sinon, il y a en R4 sud, hauteur de Charest, la voie de droite qui est bloquée par une panne. Et il resterait à vous mentionner que le secteur des ponts, il y a encore un petit peu de rouge, mais ça semble déjà s'améliorer, le fait que bonne nouvelle.
7h49, le pit stop avec Denis Gravel, ça s'en vient dans les prochaines minutes.
Boulevard 102.1 est une radio.